Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié chez Perrin, dans la collection Vérités et légendes, La Grèce antique de Caroline Fourgeau-Laville est un essai de vulgarisation historique consacré aux représentations, aux réalités et aux héritages du monde grec ancien. Helléniste et docteur S-lettres, l'autrice organise son propos autour de 22 questions volontairement directes. Athènes fut-elle une démocratie modèle? Les femmes vivaient-elles cloîtrées? Hippocrate fut-il réellement le père de la médecine? Troie ou l'Atlantide dont elles existaient? Cette forme ne vise pas à résumer toute l'histoire grecque de manière chronologique, mais à examiner les idées reçues qui structurent encore la culture commune. L'ouvrage revient aux textes antiques, aux données archéologiques et aux travaux contemporains pour distinguer ce qui est attesté, discuté ou largement reconstruit par l'imaginaire moderne. Il relie ainsi institutions, guerres, sciences, mythes, arts et usages postérieurs de l'Antiquité. Son objectif central est de rendre une civilisation très familière en apparence plus précise, sans la réduire à un catalogue de chefs-d'œuvre ou à un prétendu modèle intemporel. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la démocratie athénienne, une invention politique, non un modèle universel. L'un des apports essentiels du livre consiste à examiner la démocratie athénienne sans lui attribuer rétrospectivement les critères des démocraties contemporaines. Athènes des 1 et quivre siècles avant notre ère a bien développé des formes inédites de participation civique, les citoyens prennent part aux décisions collectives et à certaines institutions judiciaires ou politiques. Cette expérience explique l'importance durable de la cité dans l'histoire des idées politiques. Mais Caroline Fourgeau-Laville rappelle que le corps civique reste étroitement délimité. Les femmes, les esclaves et les métèques, c'est-à-dire les résidents étrangers, ne disposent pas de cette citoyenneté active. La démocratie ne recouvre donc pas l'ensemble de la population vivant dans la cité. Cette précision modifie le sens de l'héritage grec. Il ne s'agit ni de nier l'innovation athénienne, ni de la célébrer comme l'ancêtre identique de nos régimes représentatifs. Le livre invite plutôt à comprendre une institution dans ses conditions sociales, militaires et civiques propres. La citoyenneté athénienne est également liée au devoir de défense. Le citoyen est susceptible d'être un hoplite, un soldat lourdement armé, en confrontant grandeur institutionnelle et exclusion concrète. L'ouvrage donne au lecteur des instruments pour éviter deux simplifications opposées, l'idéalisation de la Grèce comme démocratie parfaite et son rejet au motif qu'elle ne correspondrait pas aux normes présentes. Deuxièmement, femmes, Sparte et Athènes corrigeaient l'image d'un monde grec uniforme. La question de la condition féminine permet au livre de rompre avec une vision homogène de la Grèce antique, dans une grande partie de la documentation disponible. Les femmes apparaissent peu et sont souvent définies par leur place dans l'oikos, la maisonnée, ainsi que par les attentes de mariage et de maternité. L'effacement de leur nom dans les sources ne doit toutefois pas être pris pour une absence totale d'action ou de rôle social, il indique aussi les limites et les biais des témoignages transmis. Certaines figures, notamment des prêtresses, des reines ou des hétaïres, sont davantage visibles, précisément parce qu'elles échappent partiellement à l'ordinaire des représentations. L'ouvrage souligne surtout qu'il est imprudent de parler des Grecs comme d'un bloc social unique. La comparaison entre Athènes et Sparte met en lumière des différences notables dans la place accordée aux femmes. Les femmes spartiates bénéficient d'un statut relativement plus favorable que les Athéniennes sur certains plans, ce qui ne signifie pas que Sparte serait une société égalitaire au sens moderne. Cette distinction a une valeur méthodologique. Les cités grecques possèdent leurs institutions, leurs pratiques et leurs équilibres propres. En abordant la vie des femmes avec nuance, Caroline Fourgeau-Laville évite à la fois le cliché d'un cloître féminin absolu et la recherche anachronique de figures d'émancipation. Elle restitue plutôt des contraintes réelles, des exceptions documentées et des contrastes entre cités. Troisièmement, mythes, tragédies et cités perdues séparaient les récits fondateurs de la preuve historique. La Grèce antique accorde une place importante aux récits qui continuent d'alimenter l'imaginaire occidental, l'Odyssée, les Amazones, Troie ou l'Atlantide. Le livre ne les traite pas comme de simples curiosités, car il renseigne sur les manières grecques de penser les origines, l'altérité, le pouvoir, la guerre ou le destin. Mais il rappelle qu'un récit célèbre n'est pas automatiquement un document historique au sens strict. La démarche consiste donc à identifier le statut des sources, à distinguer une tradition littéraire, une croyance, une hypothèse archéologique et un fait solidement établi. Les tragédies occupent ici une position particulière, les œuvres d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide ne sont pas seulement des histoires mythologiques mises en scène, elles offrent aux citoyens un espace de réflexion sur les conflits familiaux, la justice, la violence, les décisions collectives et les rapports avec les dieux. Leur portée politique et morale ne suppose pas qu'elles délivrent un message unique. Elle tient à leur capacité à mettre les tensions de la cité en débat. Les chapitres sur Troie, l'Atlantide ou les Amazones prolongent cette vigilance critique. Ils permettent de comprendre pourquoi certaines questions résistent aux réponses simples et pourquoi les découvertes archéologiques doivent être interprétées avec prudence. Ainsi, l'autrice préserve le pouvoir de fascination des mythes tout en refusant de les confondre avec une chronique vérifiable. Quatrièmement, Hippocrate. Mathématiques et environnement, l'héritage grec sans mythe du progrès linéaire, l'ouvrage aborde les savoirs grecs en évitant l'idée d'une civilisation qui aurait, à elle seule, inventé toutes les disciplines modernes. La figure d'Hippocrate sert à éclairer la naissance d'une médecine, cherchant à expliquer le corps et la maladie sans recourir exclusivement à l'intervention divine. Cette inflexion rationnelle est décisive dans l'histoire de la médecine. Mais le livre en rappelle aussi les limites, les connaissances demeurent dépendantes des observations, des cadres théoriques et des moyens techniques de l'époque. Parler de père de la médecine est donc utile pour désigner un héritage, à condition de ne pas en faire un jugement absolu. La même prudence s'applique aux mathématiques et à l'environnement. Les acquis grecs ont contribué à une longue chaîne de transmission intellectuelle, dont certains éléments sont aujourd'hui associés, par exemple, au langage de l'algorithmie. Cela ne signifie pas que les Grecs anticipaient directement les sciences informatiques. De même, le chapitre consacré à l'écologie part d'une préoccupation actuelle pour examiner les rapports grecs au milieu adaptation de l'architecture aux contraintes locales. Technique agricole, attention à certains équilibres naturels. Le terme et le programme politique moderne d'écologie ne sont pas ceux des anciens. L'intérêt de cette approche est précisément de relier des questions contemporaines à des pratiques anciennes sans plaquer sur elles des catégories anachroniques. En dernier lieu, le miracle grec et ses récupérations comprendre une influence plutôt qu'un héritage figé, le livre interroge le miracle grec. Expression commode mais chargée d'implications. Elle renvoie à l'intensité des créations grecques en matière de pensée, d'art, de politique, de littérature et de science, ainsi qu'à leur transmission durable. Caroline Fourgeot-Laville ne présente pas cette influence comme un patrimoine immobile dont l'Occident serait le dépositaire naturel. Elle insiste au contraire sur les médiations qui ont permis la survie, la traduction, la lecture et la réinterprétation des œuvres et des savoirs antiques au fil des siècles. Cette perspective évite de transformer la Grèce en origine pure et isolée de la modernité européenne. L'examen des appropriations modernes complète ce travail. De la Renaissance à l'époque contemporaine, l'Antiquité grecque a été invoquée par des philosophes, des artistes, des architectes et des régimes politiques très différents. Un temple néoclassique. Une référence à Sparte ou un discours sur la liberté grecque ne reproduisent jamais simplement l'Antiquité, ils sélectionnent et recomposent certains éléments selon les besoins d'eux. Leur temps. Les références à Sparte illustrent particulièrement ce problème puisque son image a été durablement affectée par des usages idéologiques modernes. L'autrice propose donc de ne pas abandonner la Grèce à ses détournements, mais de mieux connaître la pluralité de ses réalités. Sa formule selon laquelle la Grèce antique appartient à tous prend ici un sens critique. L'accès commun à cet héritage doit aller de pair avec l'examen de ses simplifications et de ses instrumentalisations. En conclusion, la Grèce antique s'adresse d'abord aux lecteurs qui souhaitent dépasser leurs souvenirs scolaires, leurs références culturelles dispersées ou les images très médiatisées d'Athènes, de Sparte et des grands mythes. Les néophytes y trouveront une porte d'entrée structurée. Grâce à des chapitres organisés en questions concrètes et à un style de vulgarisation qui ne suppose pas une connaissance préalable du grec ancien. Les lecteurs déjà familiers du sujet pourront surtout apprécier l'effort de mise au point. L'ouvrage rappelle les limites de la démocratie athénienne, distingue les pratiques des différentes cités et refuse de traiter les mythes comme des preuves immédiates. Les notes et les références aux sources antiques ou aux recherches contemporaines renforce cette ambition de clarté documentée. Son bénéfice intellectuel est de fournir une méthode de lecture de l'Antiquité. Il apprend à se demander de quelle époque, de quelle cité, de quel type de source et de quelle réception moderne il est réellement question. Cette vigilance est particulièrement utile face à une civilisation constamment mobilisée dans les débats sur la démocratie, les femmes, la science, l'environnement ou l'identité européenne. Par rapport à un manuel chronologique, le livre se distingue par son format problématisé et par l'attention égale accordée aux faits, aux légendes et au réemploi contemporain. Par rapport à une simple introduction admirative au miracle grec, il privilégie les nuances et les limites. Il propose ainsi moins une synthèse exhaustive qu'un guide critique. Accessible et solidement orienté, pour comprendre pourquoi la Grèce ancienne reste présente, sans jamais être réductible à nos projections. Si vous souhaitez soutenir Caroline Fourgeot-Laville, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.